No, it is.
Et de voir comment l'Église est en train de grandir au Sénégal. J'aime non seulement l'Église, mais j'aime l'Église du Sénégal. Et ma prière, c'est que cette Église, je dis toujours aux gens que de même que je vais dans mon pays et je vois une Église remplie de Camerounais dans l'Église, que j'aille dans d'autres pays, l'Église est remplie des autochtones de ce pays, j'ai un seul rêve, c'est de voir l'Église du Sénégal rempli le Sénégal.
Amen.
Du nord au sud de l'Est à l'Ouest. Et
c'est possible.
Je ne sais pas si Dieu le fera de mon vivant, mais même si c'est au ciel, je le verrai. Et mon cœur se réjouira. Alors, nous sommes heureux d'être là ce soir et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons entendu jusqu'ici, non seulement de la bouche du Docteur Fernandino, des différents MC, l'atelier que nous avons eu tout à l'heure avec notre frère Malik, c'est des vérités que nous prenons, avec lesquelles nous devons travailler pour améliorer notre travail dans le Seigneur. Parce que la Bible nous demande aussi de travailler de mieux en mieux. La Bible ne nous demande pas d'être statique. La Bible nous demande d'aller de mieux en mieux. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom c'est Pierre Célestin. Donc, le pasteur, le trichon, Félix a plus que j'ai d'accord. Donc, et je suis pasteur évidemment. Et. Non, c'est vrai, c'est moi qui ai fermé mon... C'est bon, maintenant ça va marcher. Tu, la technologie nous a trahis. Bon, il faut manipuler la partie de là-bas. C'est bon, je suis marié, ma femme est gabonaise, elle s'appelle Prudentielle. Comme je suis quelqu'un qui va très vite, Dieu a voulu que je sois prudent. Nous avons trois enfants, Raphaëlla, Josias sont nés au Sénégal, ce sont les jumeaux. Plusieurs me posent souvent la question, et les jumeaux, ils ont 17 ans aujourd'hui. Bientôt, je vais voir des gens qui vont venir chez moi dire. J'ai dit, mais le garçon que j'ai vu là, il fait quoi dans ma maison?
On était parti chez quelqu'un.
Ou bien quelqu'un va me dire, mon fils avait dit, maintenant voilà la maison, papa, tu sais, quelque chose à dire. Donc, et puis le petit, le dernier, Jesse Johan, qui est né au Cameroun, et nous avons aussi deux nièces de mon épouse, Désir et Sephora. Nous sommes une famille de sept. Moi, je suis Camerounais, ma femme est Gabonaise, mes deux premiers enfants sont nous, c'est quand ils sont Sénégalais, leur petit est Camerounais. Nous sommes une famille internationale. À la maison, nous mélangeons et les repas sénégalais et gabonais et togolais où on a été en mission et on mange. Souvent, les gens mangent chez nous et disent, mais votre repas, là, c'est bon, ils mangent. Nous, on a pris tout ce qui se passe dans le monde entier, on a mis ensemble pour la gloire du Seigneur. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été président de la jeunesse évangélique du Sénégal dans ce pays. Et puis, j'ai travaillé comme pasteur de l'église baptiste Dakar, et pendant des années, j'ai été auprès de Sékou Diatta, mon pasteur, qui est aujourd'hui regretté de moi. Après le Sénégal, un veut dire première phase du Sénégal, nous sommes allés au Cameroun, où j'ai fait la mobilisation et l'implantation des églises, et en 5 ans, on a laissé avec les frères et les sœurs avec lesquels on travaillait l'église, là-bas dans une zone dans l'extrême nord du Cameroun, dans presque la frontière avec le Tchad et le Nigeria. Et puis, nous sommes allés au Togo. Notre mission avait un partenariat avec la Convention baptiste togolaise pour enseigner dans les écoles publiques. Donc, j'ai enseigné, je continue d'enseigner. La semaine prochaine, je commence un cours sur la théologie pastorale avec des étudiants de 3e année de licence de l'école baptiste de théologie de l'Afrique de l'Ouest. En ligne. Et puis, Après, nous sommes revenus au Sénégal. Donc, Sénégal 2, depuis août 2021, pour superviser les églises de notre mission, la mission baptiste brésilienne, à Joal, Hambourg et à Dakar. Pendant 3 ans, j'habitais Hambourg pour donner une direction à l'église. Et depuis que cette église est en train de s'affermir, la mission m'a demandé de me rapprocher à Dakar pour pouvoir avoir un œil aussi pour stabiliser l'église qui est à Dakar. Et ma joie, c'est de savoir qu'à Joal, Hambourg comme à Dakar, notre église est majoritairement 98% sénégalaise. Et je mets du temps, non seulement à l'enseignement, mais aussi à créer une vision. Et nous sommes en train de commencer à vouloir ouvrir un champ à peau d'or parmi les peuples. Donc nous sommes en train de faire le travail que Dieu nous demande d'accomplir à sa gloire. Et je supervise dans les églises de la mission baptiste brésilienne. Je suis en train de terminer un doctorat avec Bakit Gradit University et mon thème, c'est collaborative for missional proposition in the Muslim majority context et de Church of Dakar. Donc vous qui êtes pasteur à Dakar, je suis en train de voir comment d'ici quelques temps je vais venir vous interviewer avec les fidèles et puis on va réfléchir ensemble comment on peut collaborer pour que l'église au Sénégal aille de l'avant. La dernière grande conférence évangélique qui a eu lieu au Sénégal, que moi-même j'ai dirigé à l'époque au centre baptiste de Grayoff, Dakar 2009, pour une ensemble pour une meilleure société sénégalaise, les statistiques disaient qu'on était environ 0,2% de la population. Peut-être que nous sommes, en tant qu'évangéliques, entre 0,2 et 1%. Chacun pourra avoir ses statistiques. Mais ma question, c'est, après une présence de l'évangile au Sénégal, après plus de 160 ans, et qu'on soit toujours entre 0,2 et 1%, ce qui est un problème. Et voici mon défi. Je vais revenir dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que dans les 30, peut-être 40 prochaines années, on fasse passer le curseur de 0,2 à 5%. Vous avez si l'église atteint 5% au Sénégal. Ce n'est plus nous qui allons demander aux autorités de venir nous regarder, ils vont regarder comme ça. Parce que si les 18 millions de Sénégalais, si nous sommes 5%, ça veut dire que nous sommes combien de chrétiens? Hein? Nous serons entre 800 et 900 000. Imaginez 900 000 chrétiens sénégalais dans un stade. Le président va venir voir ce que vous avez en train de faire. 5% seulement. Quelqu'un m'a dit lors d'une rencontre qu'on pouvait aller à 15%. J'ai dit, alléluia, moi, si je vois 5%, je peux dire au Seigneur, la tâche est vraiment en train d'être accomplie. Et j'ai quelques publications aussi et je travaille sur quelques autres livres en tout temps. Alors, bienvenue à cet atelier qui porte sur l'envoi et le soutien des missionnaires dans l'église locale. Est-ce que je peux avoir le même texte ici? Ça m'aiderait plus facilement que de me retourner. Et le titre de l'atelier présuppose que l'église doit envoyer et soutenir des missionnaires. Le titre suppose que l'église doit envoyer et soutenir des missionnaires. Et je vais le conduire de telle manière que nous ayons au moins 20 minutes ou 25 minutes de discussion ensemble. Parce que c'est un atelier, ce n'est pas une prédication. Mais la mission est au cœur du dessein de Dieu. Nous sommes tous d'accord. J'ai souvent l'habitude de dire qu'une église qui n'est pas missionnaire est une église démissionnaire. Nous devons être missionnaires. Même une église de 3 personnes doit commencer à envisager à implanter une autre église. Et c'est possible si nous le planifions, si nous l'organisons, si nous le mettons vraiment dans un bon programme. Malik nous a dit tout à l'heure dans l'atelier qui a précédé que dans les pays les plus fermés dans le monde, au Soudan et dans d'autres pays du Moyen-Orient, les musulmans se convertissent par centaines, parfois par centaines dans le même jour. Et je me pose souvent la question, Seigneur, qu'est-ce qui empêche, ça se produit au Sénégal, qu'est-ce qui empêche que les gens courent pour entrer dans nos églises locales et dire qu'ils veulent rencontrer le Seigneur? C'est notre défi. Parce que nous savons que si le Seigneur vient aujourd'hui, Malik les a appelés nos voisins, et il a dit que les autres c'est nos cousins. Alors, nous avons nos voisins, ils sont près de 95% de la population. Et nos cousins sont à peu près 4% de la population. Ça veut dire que si le Seigneur venait aujourd'hui, nous avons 99% de la population qui ne va pas avec nous aussi. C'est-à-dire tout est pris. Et moi, ça ne me fait pas rire. Pas du tout. Donc, il nous faut investir pour que cela puisse avoir lieu. Donc, nous allons rapidement, je vais rapidement définir la mission et puis je vais prendre le modèle dans l'acte chapitre 13 et ensuite je vais laisser le temps pour la discussion parce que je veux qu'on discute. Parce que moi j'ai été jeune dans l'église du Sénégal et il y a des gens qui m'ont passé le flambeau. Je suis conscient qu'aujourd'hui je dois passer le flambeau au plus jeune encore. Mais la question, c'est quel flambeau vais-je leur laisser? Qu'est-ce que nous allons laisser aux nouvelles générations quand nos enfants, les 15-20 ans, prendront notre place? Quand Félix Diaye Junior va se mettre ici pour parler, ou bien quand Jobé Junior va se mettre dans l'église pour parler, ou bien quand Jobé Junior va se mettre dans l'église pour parler, qu'est-ce qu'il pourra dire que son père lui a laissé comme héritage? Sera-t-il content? Ou va-t-il grincer des dents? C'est la grande question à laquelle nous devons répondre. Parce que les nouvelles générations nous voient et c'est nous qui devons travailler pour eux, pour qu'ils entrent dans un champ qui est déjà déblayé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avions un champ missionnaire à Kédougou. Dans les années 2000, j'allais à Kédougou régulièrement. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé ces derniers jours. Sous la pluie battante, pour évangéliser. Je suis reparti à Kédougou il y a deux ans avec le pasteur Moïse Démé. Et j'ai constaté que les vers, nos voisins, sont en train d'envahir la zone. Une zone qui était au départ à l'Ulysse, et en train de s'islamiser à un rythme incroyable.
C'est ça.
Je me suis dit, mais qu'est-ce que nous faisons? Et nous sommes réellement en guerre. Donc, la mission, Dieu nous envoie en mission. Et je pense que nous sommes tous conscients que nous sommes en mission. Nous sommes tous conscients que nous sommes en mission. On peut passer? Donc, le temps nous fera des fois, on ne fera plus tout ce que j'ai dit là, parce que je voulais qu'on définisse la mission, qu'on analyse sa place et son importance dans la parole de Dieu, avant de nous attarder plus particulièrement sur la situation de l'église locale sénégalaise pour évoquer les enjeux missiologiques auxquels elle fait face. Ensuite, pour réfléchir sur les moyens multiples qu'elle possède pour devenir une église résolument missionnaire. Chaque église locale au Sénégal doit envisager la mission. Aussi qu'elle aille seulement dans la prochaine ville, mais nous devons ensemble envisager la mission. Non seulement chaque église locale, mais aussi ensemble en tant que corps. Alors, et nous devons envisager cette mission en faisant attention de ne pas importer des modèles. Vous savez, on est à l'aise avec l'intelligence artificielle, on est à l'aise de copier-coller. On prend ce qui a un peu réussi d'ailleurs, et on vient coller au Sénégal. Ça ne va pas marcher. On doit analyser dans le contexte. Et je peux déjà garantir qu'on n'a pas encore suffisamment de Dieu. Parce que le jour où on va réellement en profondeur étudier le contexte, Dieu va faire des bons avec nous. On a encore suffisamment de travail à faire pour sa gloire. Comme je n'ai pas le PowerPoint devant moi, je ne peux pas anticiper ce que je vais dire. On peut faire passer, s'il vous plaît. Alors, la mission, c'est quoi? C'est l'engagement du Seigneur sur fond de Genèse 3 de chercher l'être humain pécheur dans le but de le ramener à lui. Dieu a un seul objectif. Il est en train de chercher l'être humain pour le ramener à lui. Ça, c'est l'objectif principal de Dieu. Il travaille chaque jour. Le Saint-Esprit a été envoyé dans le monde entier pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Pour qu'ils viennent au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur parce que lui, le Saint-Esprit, il le fait chaque jour. Il le fait chaque jour. La grâce de Dieu, c'est que Dieu utilise même des... Dieu, parfois, peut même ne pas nous utiliser pour amener quelqu'un à la foi. Nous avions une sœur dans notre église, dans le passé, qui sortait de sa maison et puis elle a ramassé un papier au sol. Ça devait être un traité. C'est ce traité qui l'a mené à la foi. Et l'épouse d'un pasteur qui est là, quand il m'a pas donné l'autorisation d'en parler, le pasteur a levé la tête pour me voir, donc il sait de qui je parle. Et c'est ma première. C'est comme ça qu'elle s'est convertie. Donc Dieu est en train de travailler pour convertir. Même quand nous dormons, Dieu travaille. Et heureusement que Dieu ne dépend pas nécessairement de nous. Sinon, son œuvre serait encore très loin derrière par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Il travaille lui-même. Et une des choses qu'il fait dans le monde arabe, au Moyen-Orient, c'est qu'il donne aux gens et des visions et des rêves pour venir au Seigneur, lui-même, par sa grâce. Donc, Dieu travaille l'autre. D'accord. Donc, une lecture attentive de la Bible nous révèle que Dieu est missionnaire. Le Père est missionnaire, le Fils est missionnaire, le Saint-Esprit est missionnaire. Nous devons lire la Bible dans cette perspective de la mission. Nous pouvons faire plusieurs autres lectures de la Bible, mais nous voulons aller dans la perspective de la mission. Notre herméneutique doit être christologico-missiologique. Nous devons aller en mission. Nous devons nous bouger pour que nous sortions de notre zone de confort. Tant que nous ne faisons pas ça, nous ne serions pas en train de pleinement obéir au Seigneur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens devaient venir à Israël pour voir la lumière de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a demandé de partir. Nous devons sortir. L'Église doit se mettre en marche. On doit aller dans les villages, on doit aller dans les régions, on doit aller dans les villages les plus reculés. Il y a une boisson dans le monde entier que vous trouverez toujours n'importe où vous vous trouvez dans le monde entier. Hein? Très bien. La vision de Coca-Cola, c'est que où que vous soyez dans le monde, y compris dans la mer, si vous voulez boire un Coca-Cola, que vous le trouviez devant votre porte. Vous allez dans un village, sérène dans un village, voilà. Vous demandez le Sprite ou le Fanta, vous dites qu'il n'y en a rien. pour demander le grand vous en sort un, même s'il n'est pas de lacet. On vous en sort quand même. Donc, nous devons avoir la vision de dire au moins au Sénégal que nous voulons travailler de telle manière que chaque Sénégalais trouve l'évangile devant sa porte. Et croyez-moi, il y a des zones au Sénégal qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile. Il y a des zones dans ce pays où il n'y a même pas encore une présence d'une seule personne qui est croyante. Une seule personne. Il y a des zones où le défi, c'est de dire on va envoyer quelqu'un qui n'est pas de leur religion. Pour que quand eux, ils commencent à discuter, réfléchir, qu'ils intègrent qu'ils ont quelqu'un qui n'est pas de leur religion dans leur raisonnement. Il y a des zones comme ça. On peut avancer? Donc, comme j'ai dit dans l'Ancien Testament, la mission était centripète, dans une voie les centrifuges. On avance. Et dans le livre des Actes des Apôtres, le premier exemple que nous avons dans le Nouveau Testament d'une église missionnaire, c'est l'église d'Antioche. C'est vrai, le modèle n'est pas prescriptif, il est descriptif. La Bible ne nous dit pas nécessairement que nous devons faire comme eux, mais la Bible nous donne leur exemple pour que nous puissions tirer des leçons de leur exemple. Des paradigmes pour notre mission, pour l'accomplissement de la mission. On peut aller. Et ce qu'on retrouve comme élément dans ce texte, c'est que le culte d'adoration doit être un culte qui est centré sur la parole et sur la prière. Ensuite, que l'Église doit être sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu a dit, pendant que j'étais en train de jeûner, de servir, de prier, le Seigneur a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Église du Seigneur doit être sensible à la voix du Saint-Esprit pour savoir les personnes que Dieu appelle dans l'Église. Et nous devons travailler de telle manière que nous laissions que dans nos églises locales, des gens expriment l'appel que Dieu est en train de leur donner. Et particulièrement pour devenir missionnaire dans ce pays. Ensuite, une église qui libère, peut-être même parfois qui libère les meilleurs et qui envoie. Si on pouvait avoir un jour dans notre pays au Sénégal où tous nos pasteurs des grandes dénominations et des grandes églises, c'est eux qu'on envoie à Michel. Je pensais que vous avez dit Amen. Amen là. Amen là, il est Amen, elle n'est pas pour mais nous devons envoyer en mission. En mission. Nous devons envoyer. Nous devons réussir le pari pour que nos églises arrivent au stade où chaque année, on envoie certaines personnes en mission à l'intérieur du pays. Dans les régions les plus proches, comme dans les régions les plus reculées, pour la gloire de notre Seigneur. Et puis, évidemment, c'est une église qui se met à jour sur la mission. Il y a même, je ne connais pas si dans certaines églises de nos églises, on parle de la mission qui marche en paix. Est-ce qu'on se soucie des missionnaires qui sont sur le terrain? Ça peut commencer même en disant, on va choisir un missionnaire dans le pays, on va le soutenir. Mais on va prier pour lui régulièrement, pour développer l'esprit missionnaire au milieu du peuple de Dieu. Beaucoup de nos croyants dans l'église sont des simples consommateurs du culte du dimanche. Ils viennent le dimanche, ils chantent et ils dansent. Et dans la semaine, ils vivent comme de bons païens. Ils reviennent dimanche prochain. Ils chantent et ils dansent, ils viennent prendre la piqûre évangélique. Et après, ils vivent. Nous devons travailler de telle manière que chaque personne dans nos églises locales sache que même dans son lieu de travail, il est un missionnaire. Que son travail n'est pas la fin, qu'il utilise son travail comme un moyen missionnaire pour servir. Que le plus important dans son travail n'est pas son salaire, c'est la gloire et la présence de Dieu. Donc, j'avais dit que je vais laisser 20 à 25 minutes, c'est ce que je vais faire maintenant. Et il y a quelques questions au tableau. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. Tous les fois, on pose une question. Si une personne parle à droite et que quelqu'un d'autre doit parler, c'est la personne qui est à gauche. Et puis à droite à gauche. Mais dites-moi, je vais partir des questions les plus évidentes aux moins évidentes. Est-il utile d'envoyer des missionnaires locaux dans notre pays au Sénégal? Est-il utile? Si oui ou non, pourquoi? C'est oui. D'accord? Qui pense que c'est oui? D'accord, donc on va. C'est une question évidente, on va avancer. Je vais rester sur lui. Alors la question maintenant, c'est l'Église est-elle prête pour envoyer les missionnaires? Oui, on va revenir à ça. Merci beaucoup. L'Église est-elle prête pour envoyer des missionnaires? En d'autres termes, l'Église a-t-elle les moyens d'envoyer des missionnaires? Chacun parle, celui qui est d'accord, il prend, mais ne prenez pas tout le temps. Prenez une minute. Oui, pasteur Mignan.
Puisque vous nous avez amené dans Acte 13, et que vous avez dit si l'Église a les moyens, nous savons que dans l'acte 13, c'est le Saint-Esprit qui a dit « Prenez celui-ci et celui qui est envoyé. » Et c'est le Saint-Esprit qui va accompagner. Si c'est dans ce sens-là, oui. Du moment que vous avez défini déjà à partir de Genèse 3, que c'est le fait qu'on a cherché celui qui est perdu par Jésus-Christ, oui. L'Église a cette mission. Et vous venez de dire qu'une Église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. L'Église est missionnaire. Et à l'heure où nous sommes, avec le pourcentage que nous avons, dire que l'Église ne veut pas envoyer, c'est déjà démissionnaire. Mais quand vous dites est-ce qu'il a les moyens, les gens pensent tout de suite aux finances. Mais je ne pense pas que les finances doivent être le premier moteur de la recherche à envoyer un missionnaire. Un missionnaire équipé, avant d'aller, déjà quand il passe sur le terrain, il trouvera les moyens de pouvoir faire, et l'Église ne fera qu'accompagner selon ses possibilités. Parce que tant qu'on attendra que l'Église ait les moyens, on n'enverra jamais des missionnaires. Et nous, en tout cas, dans le système Assemblée de Dieu, une Église qui est née a l'obligation tout de suite de chercher encore une autre Église. Et donc, le fait déjà que nous avons ciblé le pays pour trouver des zones missionnaires, ça veut dire que tout pasteur qu'on nous envoie dans ces zones-là est missionnaire. Il faut que l'Église ait l'ADN de la mission. Parce qu'un pasteur qui ne connaît pas la mission, qui lui-même se soucie de son propre soutien, ne soutiendra pas un missionnaire.
Merci, pasteur Miguel. Quelqu'un doit lui dire quelque chose d'autre avant qu'on avance. Mais je pense que la discussion est vraie. Moi, j'ai posé la question, non pas parce que je crois que l'Église n'a pas les moyens, je crois que l'Église a les moyens. L'Église au Sénégal a toutes les possibilités d'envoyer des missionnaires régulièrement sur le champ missionnaire. Oui, ancien à lui.
Je pense que si nous voulons renverser la tendance, il nous faut impérativement envoyer des missionnaires, même sur la base de la nage du monde. Mais qu'à faire? Et les moyens n'existent nulle part. On les cherche. Chas Amol, Père Amol, la priorité.
Amen. La prochaine question. Alors, que devrait, tu vas répondre à la prochaine question. Que devrait faire l'Église pour envoyer et soutenir les missionnaires? Que devrait faire l'Église? Je rappelle que c'est ouvert à tout le monde.
Ces derniers temps.
Tiens, le mien.
J'étais en tête
de réfléchir au concept même de la mission selon le contexte sénégalais. C'est comme le pasteur Mike, j'ai beaucoup aimé son expression tout à l'heure. Parce qu'il y a hâte de nous amener à contextualiser notre façon de faire le ministère au Sénégal. Lorsque nous observons les musulmans et tel que l'islam a été répandu au Sénégal et à partir du Sénégal dans la sous-région, cela n'a pas été fait selon le concept que les missions occidentales nous ont transmis. C'est-à-dire, il faut une société de mission qui envoie les missionnaires, qui les soutiennent, qui les garantissent un salaire. Ça n'a pas été fait comme ça. Et tant que nous attendons d'avoir les moyens de faire la mission de cette façon, on ne fera jamais la mission. Ce sont des commerçants musulmans qui se sont implantés dans nos villages. Ce sont même des commerçants mobiles. Comment on les appelait parce que les boutiques. Ils avaient leur machin, leur manette sur leur tête. Ils faisaient de village en village vendre des tissus, des pailles. Et en même temps, ce sont eux qui ont converti nos grands-parents. Ce sont ces gens-là qui ont converti nos grands-parents. Et ce sont eux qui ont traversé la frontière pour aller jusqu'au Mali, jusqu'au Niger, jusqu'au Nigeria. Ce sont les Nyassés de Kora qui ont évangélisé le Nigeria. Jusqu'aujourd'hui, ils vont régulièrement au Nigeria. C'était des commerçants. Il n'y avait aucun soutien financier derrière eux. Aucune société missionnaire ne les a envoyés. Ils sont partis parce qu'ils ont répondu vraiment à l'appel d'Allah. Mais notre grand problème, c'est que nous voulons reproduire le modèle occidental. Ça ne marche pas. Il nous faut créer notre propre modèle. Mais les mourides sont là. Pourquoi les mourides aujourd'hui ont conquis le pays? Moi, j'étais encore très jeune, enfant. Mais le mouridisme n'était pas bien vu au Sénégal. Dire je suis mouride, c'était mal vu. C'était le djihadisme qui était à l'avant. Mais aujourd'hui, comment ils ont réussi à impacter, à influencer, à conquérir le Sénégal? Nous devons réfléchir à ça. Si nous ne le faisons pas, on vous fait la mission tel que les blancs ont fait la mission. Ça ne marchera pas. Le Sénégal est tout à fait une autre réalité. Merci.
Je suis entièrement, je suis entièrement d'accord.
J'allais ajouter que nos enseignants, nos infirmiers, affectés dans les villes et les villages, soient formés dans cette conception de faire la mission.
Nous, je suis entièrement d'accord et peut-être qu'il nous faut une rencontre de 2-3 jours avec seulement réfléchir sur comment faire la mission dans ce pays. Et avoir toutes ces réflexions qui sortent. Pour que ce soit la même façon de penser du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans nos églises évangéliques. Pour que si nous voulons créer un changement réel, dans le pays, nous devons honnêtement nous asseoir et dire, nous réfléchissons ensemble. Dans toutes nos églises locales, il y a des fonctionnaires dans les villages. Ils deviennent missionnaires de l'église. Quand je dis que nous sommes en train d'aller à Podor, c'est un frère de l'église qui est directeur de l'église là-bas. On va étudier sa présence là-bas pour commencer le travail. Donc il est temps que on change vraiment de paradigme pour pouvoir. Moi j'ai dit, moi je ne veux que 5%, le curseur, quand on le balance à 5%. Certains d'entre vous veulent 10, d'autres veulent 15. Je sais que le pasteur Félix veut peut-être 50, le pasteur Mignan veut 100%. Moi, je vais voir d'abord 5. Ensemble, oui.
Merci. J'ai à cœur de poser cette question. En quoi entendez-vous par soutenir des missionnaires locaux?
Les envoyer et les soutenir parce que, comme j'ai dit, le titre de l'atelier qu'on m'a confié, c'est envoyer et soutenir. Il y a le soutien financier, il y a le soutien psychologique, il y a le soutien moral, il y a l'accompagnement à plusieurs niveaux. En fait, quand nous envoyons un missionnaire, il ne faut jamais qu'il arrive au stade où il se sente seul sur le terrain. Ce n'est pas d'abord que l'argent doit être rempli. Moi, il y a des gens qui me disent, parce que simplement le fait que tu es appelé pour dire comment ça va. On prie pour toi, ma journée a été changée. Et donc, le soutien est multiforme. Ce n'est pas simplement d'avoir l'argent. On n'aura jamais assez d'argent. Même l'homme le plus riche du monde n'a pas assez d'argent. On n'aura jamais assez d'argent pour faire le service de Dieu. Mais on veut être sûr que quand je vais en mission, il y a une église, il y a une organisation, il y a des frères et des sœurs derrière moi qui savent que ma cause sur le terrain, c'est leur cause. C'est bon? Bien. Oui, pasteur.
Merci beaucoup, pasteur. Voilà, moi j'aimerais donner juste un témoignage. Quand on parle des enseignants en tant que missionnaires, et j'ai quelques expériences que je voudrais partager. Je n'étais pas prêt à parler, mais vu que le mot revient toujours des fonctionnaires, je suis fonctionnaire d'État, je suis enseignant à l'école. Comment je faisais? J'étais un volontaire partout en Casamance. Alors là où je vais, j'ai initié ceci dans l'école, bien sûr. Quand, par exemple, à l'approche de Noël, parce que c'est le moment là où les gens sont beaucoup plus attentifs, alors je fais un exposé au milieu intellectuel au même niveau comme ça, ça passe, sur la naissance de Jésus. Pâques, la même chose. Je fais un exposé sur la mort et la résurrection de Jésus, et ça passe. Au point que une année, j'ai arrêté, eux-mêmes, ils m'interpellent. Mais pourquoi? Si tu as arrêté, on aimait beaucoup. Et aussi, je proposais de suivre toute l'équipe de la musique, en commençant par le directeur des Bibles. Et les maîtres d'Ara, qu'on a actuellement, vous le savez, à chaque école. Et dans cette expérience aussi, j'ai dit, bon, attends, comme il y a dans l'emploi de l'éducation religieuse, j'ai contacté le frère pasteur qui est là, Danoul. Et j'ai dit le directeur, j'aimerais aussi que l'éducation religieuse soit faite dans l'école. Quoi? Vous savez qu'il y a un majeur tellement des musulmans, et qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, mais c'est pas à moi. Et dans l'administration, à l'éducation religieuse, c'est religieuse. Et vous attendez ce qui se passe dans les classes, les jeudi et vendredi, c'est qu'ils enseignent carrément la religion musulmane. Alors donc, de ce fait, on a fait des démarches. C'était quand même difficile. Et on est allé voir même l'IF. Et c'est ainsi que le frère prospère aussi bonnet pour donner des cours religieux. Au départ, quand il entrait, d'autres sortaient, mais au finish, toutes les classes étaient là, et même les collègues l'ont adopté, et finalement les gens le suicident. Donc c'est pour dire que c'est possible. Voilà, voilà un petit exemple quand même. On témoigne. Et aussi, je fais une demande, s'il y a des gens ici parmi vous qui ont des Bibles en arabe, vous pouvez m'aider parce que les maîtres d'arabe demandent et à la fois. Merci.
Oui, allez.
Oui, merci beaucoup. Merci pour l'exposé. En tout cas, ça pousse à la réflexion, comme vous l'avez dit. Personnellement, je crois que je vais revenir sur les interventions qui ont eu lieu tout à l'heure par rapport au potentiel que nous avons dans nos églises par rapport concernant les fonctionnaires. Pour moi, je suis dans un hôpital et plus de 20 ans, quand on me dit tu vas où, je dis je vais au ministère. C'est pour moi une mission que je suis là-bas. Et récemment, je crois qu'il y a une année, on était en cours sur la prise en charge des patients, du personnel par rapport au stress de travail. Alors, arriver chez moi, c'est que je suis dans cette entreprise comme missionnaire. C'est ma mission. Je réponds au Seigneur par rapport à son appel. Ce que je voulais dire, c'est que, comme le frère l'a dit tout à l'heure, c'est une possibilité de pouvoir atteindre de manière une relation de confiance avec quelqu'un, mais c'est pas très facile, en tout cas, ça c'est sûr. Mais le fait que vous êtes ensemble et la lecture qui est faite sous ta vie peut être partie, le fait que je ne suis pas écouté, et même peut-être même sollicité pour intervenir. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, on est dans un lien comme l'hôpital, quand quelqu'un est malade dans un endroit, il y a quelqu'un qui peut me dire on a besoin de toi que tu viens prier pour cette personne. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il faudrait faire au niveau des églises, recenser toutes ces personnes qui ont un emploi dans l'État et apporter une formation.
Très bien. Réunir ces personnes, c'est pour ça que ma prochaine question était sur le profil. Réunir ces personnes, leur donner une formation, mais les libérer pour que non seulement ils sont déjà missionnaires dans leur lieu de travail, mais leur demander de commencer une cellule dans leur vie. Pour que une église naisse. Que des églises naissent partout où nous avons des fonctionnaires qui ont été envoyés. Vous savez, si on attend de former tous les serviteurs de Dieu, pasteurs, avec toute la formation théologique et missionnaire dont on a besoin avant de les envoyer, on sera régulièrement en retard. On peut utiliser nos fonctionnaires pendant qu'ils sont en train de faire le travail d'évangélisation. Nous, on prépare ceux qui vont aller sur le champ de mission. Nous devons garder à l'esprit, en tout cas, qu'en tant qu'église missionnaire, nous devons envoyer et soutenir des missionnaires sur le terrain. C'est un défi immense que nous avons. Nous devons partir. Ma prière, c'est que nous partions de ce lieu demain, quand nous allons partir, avec nos livres, avec nos clés, avec tout ce que nous avons à l'intérieur, mais que nous partions en disant que le pourcentage que nous sommes dans le pays ne reflète plus la qualité de l'église que nous sommes. Il faudrait que le pourcentage évolue et que, moi, ma proposition sortie de cet atelier, c'est que la Fraternité Évangéliste Sénégal, en tout cas toutes les organisations qui nous représentent, et j'ai compris depuis que je suis revenu au Sénégal, qu'il n'y a plus que simplement la Fraternité, il y a d'autres mouvements, mais qu'on se mette ensemble et qu'on prenne 2, 3, 4 jours. On prie, et puis à la communion fraternelle, on mange ensemble, bien sûr, mais on réfléchit. Quelle sera l'identité en matière d'évangélisation? Quelle sera la stratégie, la méthodologie en matière d'évangélisation que nous voulons perpétrer dans ce pays? Quelles sont les grandes lignes que nous voulons que toute l'Église puisse avoir? Pour que d'une Église à une autre, on puisse savoir qu'on est en train de faire la même chose sur le terrain, parce qu'on ne peut pas, ne pas faire ce qui est purement contextuel. On doit, pour annoncer l'évangile au Sénégal, répondre aux besoins du Sénégalais. On doit faire en sorte que le Sénégal qui nous écoute réalise que la foi chrétienne n'est pas une transplantation étrangère, mais c'est un besoin vital pour chaque être humain où qu'il soit. Ça, c'est le défi que nous avons. Tant que les autochtones sénégalais, la population sénégalaise, nous verra simplement comme un groupement d'étrangers qui ont leur foi dans le pays, ça ne leur dira absolument rien. Donc il nous faut changer le paradigme, il nous faut changer le modèle, il nous faut avoir l'honnêteté et le courage de dire, on va évacuer ce qui est à évacuer, on va revenir aux fondamentaux contextuels, parce qu'on a un seul objectif, c'est que les autochtones soient sauvés. C'est ça qu'on veut. Ceci à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et bon retour à la maison.
Merci beaucoup, Frère Saint. Je pense que c'est vraiment enrichissant. Et comme le temps est beau, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Et nous, les Seigneurs, on a entendu.